Bonjour, c'est l'heure du documentaire dans cette semaine consacrée à des enquêtes. Enquête sur le langage pour commencer, puisque selon le point de vue, les actes dont nous allons parler sont qualifiés différemment. Selon l'AFP, en novembre 2007, sur la ligne à grande vitesse Atlantique, un incendie très important d'artère de câble au kilomètre 108 a endommagé sur 30 km le réseau de signalisation. Le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, qualifie ces actes d'exactions graves et condamnables. Sur la LGV Est, un incendie volontaire d'artère de câble empêche la circulation normale des trains depuis 6h10. Le ministre s'est refusé à utiliser le terme de sabotage qu'on emploie qu'en période belliqueuse et a affirmé que depuis le début de la grève, il y a eu pas mal d'exactions dans les enceintes ferroviaires. De leur côté, les secrétaires généraux de la CGT Cheminots, Didier Lereste, et de la Confédération CGT, Bernard Thibault, ont qualifié ces exactions d'actes inqualifiables commis par des lâches, les jugeant inadmissibles. N'hésitant pas à parler, lui, de sabotage, Antoine Saxe mène l'enquête.
8e jour de grève à la SNCF et à la RATP avec des actes de malveillance ce matin sur les lignes TGV. La direction de la SNCF parle de sabotage. La CGT dénonce des actes inqualifiables commis par des lâches.
Pour la première fois, des actes simultanés de sabotage ont touché les TGV avant le lever du jour.
Les systèmes de signalisation et des câbles ont été incendiés. Ces actes perpétrés de façon coordonnée ont été condamnés par l'ensemble des organisations syndicales et par le gouvernement.
Ces actes sont des actes criminels. Les auteurs de ces actes de sabotage ont sans doute cru pouvoir interrompre les négociations et la reprise du travail qui est en cours à la SNCF. Eh bien, je leur dis, ils se sont lourdement trompés.
Sur les docks.
Train régional de 16h16 à destination de Saint-Quentin et de départ de la voie numéro 11. Merci de votre attention.
Sabotage. Une émission proposée par Antoine Saxe et réalisée par Nathalie Trianda-Filides. Le 21 novembre 2007, entre 4h et 6h du matin, c'est-à-dire quelques heures avant l'ouverture des négociations sur le régime des retraites à la SNCF, des dégradations ont lieu un peu partout en France, et notamment sur les lignes TGV Atlantique et Est, où des incendies de câbles perturbent très sérieusement le réseau de signalisation. Que ce soit du côté des syndicats, de la direction de la SNCF ou du gouvernement, les condamnations sont unanimes. Personne ne revendique ces actes. Sabotage, le mot est lancé et sera repris partout dans la presse. C'est le début de la fin pour cette grève, entamée une semaine plus tôt. Petit rappel, les cheminots ne sont pas seuls à faire grève. La RATP, EDF, GDF, Météo France, La Poste, les buralistes, la fonction publique et en particulier l'enseignement, battent le pavé aux quatre coins de la France. Aujourd'hui, sur les docks, vous propose une lecture de ces événements à travers la notion de désobéir. A-t-on affaire avec ces fameux sabotages à des éléments incontrôlés qui auraient désobéi à l'injonction du respect de l'outil de travail, une injonction très ancrée chez les cheminots? Et puis ce documentaire est un questionnement sur l'irruption du radicalisme dans les mouvements sociaux. À travers le règlement intérieur particulièrement touffu de la SNCF, on perçoit la difficulté de rester dans les clous quand on milite pour un syndicat. Alors voilà, c'est le matin du 21 novembre, des lignes ont été sabotées et la rumeur accuse les syndicats d'être à l'origine de ces actes. La CGT et puis surtout Sudrail sont montrés du doigt. Pour commencer, voici comment Christian Mailleux, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, a vécu ces sabotages. Nous l'avons rencontré à Paris en gare de Lyon.
Moi ce matin-là, j'étais au piquet de grève dans mon établissement, donc ici à la gare de Lyon, à partir de 5h30 le matin. Et en fait, il se trouve que ce matin-là, c'est un matin où j'avais une interview dans une des radios vers 8h. Et donc j'ai quitté le piquet de grève ici vers 7h30 pour aller à cette interview. Et en fait, c'est en arrivant là-bas que le journaliste qui m'interviewait un peu après m'a dit « Ah oui, on va aussi vous parler des sabotages qui se sont passés très tôt ce matin, etc. etc. » Et en fait, très clairement, moi je lui ai dit « Oui, moi je veux bien vous parler de ça et éventuellement vous répondre, mais dites-moi de quoi il s'agit, parce qu'en fait, je savais même pas de quoi il s'agissait, puisque j'étais donc en garde depuis le matin. » Donc voilà, je sais que la direction SNCF et le gouvernement ont largement communiqué de manière officieuse sur le fait que ça ne pouvait être qu'une opération montée par un commando très organisé, etc., etc., deux cheminots en clair, et que une partie de la direction SNCF, en tout cas, a très clairement dit à la presse que Sudrail était derrière tout ça, quoi. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une opération menée par des militants ou des militants de Sudrail. Ça semble effectivement une opération quand même menée, on va dire, avec beaucoup d'organisation. Et nous, on en est au 21 novembre au matin, la direction SNCF cible très clairement Sudrail. Près de 4 mois après, il n'y a strictement rien qui a avancé, malgré des enquêtes qui ont été lancées par le ministère de l'Intérieur, les gendarmeries, etc., etc. On n'a strictement rien là-dessus, et donc nous, on attend très tranquillement sur le sujet, qu'il y ait un certain délai qui soit passé. Et bien évidemment, on va réinterpeller notamment la direction de la SNCF, qui s'est quand même donc permis de lancer des accusations particulièrement graves sur ce sujet-là.
Écoutez ou réécoutez ce que Guillaume Pépi, le directeur exécutif de la SNCF, disait ce matin.
Une série d'exactions ont eu lieu au même moment sur le réseau des lignes à grande vitesse. Donc il est clair, on est en présence d'une action coordonnée de sabotage des installations électriques qui est destinée à contrer en quelque sorte la reprise observée des trafics. Pour les voyageurs, il y a des retards très importants de l'ordre d'une à trois heures qui sont à prévoir. On est vraiment en présence d'actions totalement inadmissibles.
Et des retards qui vont se prolonger cet après-midi.
Oui, alors moi c'est Aliar Juan. J'ai terminé mon activité en décembre 2007. J'ai été mis à la retraite d'office par la SNCF suite à la dernière grève le 24 décembre.
Voilà. Donc vous étiez aux premières loges pendant les grèves de novembre dernier, pendant les sabotages. Vous avez été interviewé à plusieurs reprises, notamment par le site internet du Figaro, qui a présenté Sudrail à l'époque comme cautionnant les sabotages, voire organisant les sabotages, mais ce n'est pas exactement votre point de vue, en fait.
Ce qui est évident, c'est que lorsque le 21 novembre, Pépi a annoncé donc des sabotages soi-disant organisés sur quatre lignes TGV, en première ligne, on avait désigné implicitement la CGT puis Sudrail, quoi. Donc les deux organisations majoritaires. Alors si on tient compte du contexte de cette période, on constate qu'on était au septième jour de grève, qu'il y avait les gaziers, on avait les PTT, on avait la fonction publique qui venait rejoindre les cheminots. On constate que la mobilisation se maintenait, 27% de grévistes à la SNCF, c'est une grève moyenne, en temps normal. Et donc, on avait certainement intérêt à ce que ces actes de soi-disant sabotage se produisent et qu'on désigne implicitement certains syndicats, notamment les syndicats majoritaires.
89, oui, 3, non, 2, nul. La grève est reconduite.
Depuis le départ, Sudrail a bien précisé que la SNCF était en train de pousser les gens au crime. Vous savez, en tant qu'organisation syndicale, que ce soit la CGT ou que ce soit Sud, on est incapable de savoir ce qui se joue bien souvent dans certains secteurs où la tension monte. Quand le chef d'établissement commence à interpeller les agents pour leur préciser qu'ils vont être durement sanctionnés, et à un moment donné, quand les agents se font donc interpeller, se font menacer ou se font punir, on ne maîtrise pas tout.
Normalement, c'est cadenassé et le cadenas a été coupé.
Ensuite, un ou des individus se sont introduits sur cette ligne TGV tout près de Chartres. La cible, ce câble de transmission, sans lui, les TGV ne peuvent plus rouler.
Tous les regards se tournent vers les irréductibles de Sudrail. Christian Mailleul, le secrétaire fédéral de Sudrail, sera en direct avec nous dans un instant.
D'où est-ce que ça vient, cette réputation de militant jusqu'au boutiste, hein, je veux dire, Sudrail, c'est ceux qui osent, quoi. Vous êtes les nouveaux guerriers, quoi.
Je pense qu'il y a une confusion qui est volontairement entretenue par la direction et puis par les gouvernements, d'ailleurs.
Christian Mailleul.
Entre l'aspect radical, dans le sens, effectivement, tenir des positions et les défendre, et les défendre jusqu'au bout, parce qu'on pense que c'est le rôle d'un syndical de défendre les positions qu'elle représente, quoi. Ce qui est qualifié, effectivement, souvent de jusqu'au boutiste, et donc avec l'extrême, là, où on frise quasiment l'accusation de terrorisme. Hein. C'était quasiment ça, le 21 novembre au matin. Mais je pense qu'il y a, oui, il y a une confusion qui est entretenue. Nous, on a des positions qui sont, pour certaines, peut-être radicales, au sens, si on ramène ça effectivement à la norme de ce qu'est aujourd'hui la société. Quoi, mais,
Par exemple, qu'est-ce que vous autorisez comme forme de radicalisme, Christian Mailleul?
C'est une réponse qui est peut-être un peu provocatrice, mais a priori, on s'autorise tout. Par exemple, sur la question de la privatisation de la SNCF et les premiers trains privés, On a monté en septembre 2005, au moment de la circulation du premier train privé fret en France, donc c'était dans l'est de la France, vers Metz, à Dugny. Nous, symboliquement, on refuse que ces voies-là servent au train privé, et donc on va démonter un rail, ce qui est effectivement une opération totalement interdite au sens légal du terme et réglementaire au sein de la SNCF. On l'avait annoncé, on l'a fait, donc ça fait partie des trucs effectivement qu'on est prêt à assumer. C'est d'ailleurs pour ça que, y compris sur cette opération du 21 novembre, si on avait cru qu'il fallait faire ça, et si on l'avait fait, on l'aurait assumé, parce qu'on pense aussi, et c'est aussi l'expérience du mouvement ouvrier, c'est que ce qui fait avancer, y compris le droit, c'est aussi à un moment donné une succession d'actes qui, à un moment donné, sont pas forcément légaux.
Et plusieurs enquêtes ont été ouvertes après ces incidents. À ce sujet, écoutez, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, c'était tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres.
Ceci est tout à fait intolérable, c'est irresponsable. Et j'ai donné dès ce matin des instructions pour que tous les moyens, et notamment ceux de la police technique et scientifique, soient mis en œuvre de façon à ce que puissent être arrêtés les auteurs de ces dégradations et qu'ils soient déférés à la justice.
4 mois plus tard, nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur les avancées de l'enquête. Après plusieurs coups de fil au ministère, on nous a poliment signifié que ces affaires étant en cours de traitement, rien ne pourrait nous être communiqué. Qu'à cela ne tienne, nous avons contacté la gendarmerie nationale.
Hier, à 10h.
Monsieur Saxe, bonjour, c'est le service communication de la gendarmerie. Je vous rappelle, suite à votre demande du début de semaine pour l'émission sur les docks, pour vous dire que malheureusement, on ne pourra pas donner suite à votre requête. Je vous faisais part de quelques réticences sur ce sujet. On a de multiples procédures qui sont toujours en cours.
Alors comme nous sommes obstinés, nous avons tenté notre chance, cette fois auprès de la direction de la SNCF, qui, rappelons-le, avait déposé 18 plaintes le 21 novembre.
Bonjour.
J'aurais aimé avoir une interview de Guillaume Pépi ou de toute personne de la direction qui voudrait bien répondre.
Pour l'instant, c'est pas possible, Guillaume Pépi.
Ou éventuellement quelqu'un d'autre à la direction.
Ça m'étonnerait pour l'instant qu'on ait quelqu'un qui s'exprime là-dessus, parce que c'est tout courant qu'on est en plein changement de président.
Oui, d'une certaine manière, c'est un peu indépendant.
Période est un peu difficile, là, pour l'instant.
Or, quelques jours plus tard, M. Pépi a été nommé président de la SNCF. Voici quelques lignes que nous avons reçues d'une amie qui travaille à la direction de la SNCF.
Bonsoir Monsieur Saxe. Au risque de vous décevoir, après avoir alimenté chez vous quelques espoirs, je ne trouve dans la maison aucun responsable disponible pour participer à l'émission que vous projetez de monter. Sachez que j'en suis toute désolée, mais je suis aussi convaincue que vous saurez trouver suffisamment d'interlocuteurs différents pour faire une émission vivante, illustrée de points de vue variés et de mise en perspective éclairante. Un bon week-end à vous quand même.
Merci au moins, madame, d'avoir essayé. Continuons donc cette émission vivante et illustrée de points de vue variés. Avec Juan Alliard de Sudrail, il revient sur la chronologie des sabotages.
Le 8e jour, lorsque la presse s'est déchaînée, lorsque les politiques se sont déchaînées, on s'est retrouvé rapidement avec un mouvement qui s'est étiolé et certains syndicats qui ont commencé à lever le pied. Mais bizarrement, donc, ça a énormément servi plutôt les politiques et la direction, notamment Pépi. Pépi a joué un rôle magistral. Moi, je finis par me dire que finalement, il a gagné ses galons, quoi. Aujourd'hui, Pépi se retrouve président. À l'époque, donc, on a constaté quand même que la présidente n'était pas très à jour sur un certain nombre de dossiers et d'interventions, très peu médiatiques. Elle est intervenue vraiment à la limite, quoi. Et je pense qu'elle l'a payé par la suite avec son débarquement et l'arrivée de Pépi. Elle prit quand même un deuxième mandat au niveau de la présidence. On a trouvé quand même des choses un peu bizarres dans l'histoire française ces dernières années, notamment des histoires de barbouzes, on en a vécu quelques-unes. Hein. Le fameux bateau des écologistes n'a pas été coulé par hasard. À un moment donné, il y a bel et bien aussi des interventions qui nous paraissent douteuses. Alors de là à faire un lien, certainement pas, mais il faut quand même se dire, c'est qu'à un moment donné, ça arrive à point, quoi. On peut se demander à qui profite le crime. Contrairement à tout ce qui est dit, on a très peu parlé de ces fameux réseaux de cuivre qui sont organisés, qui se déploient, y compris en Europe, puisqu'on retrouve les mêmes problèmes avec les cheminots belges et au-delà les cheminots allemands. Donc on s'aperçoit qu'il y a des réseaux coordonnés. Le gouvernement est au courant, les journalistes aussi. Hein, on a vu des revues de presse du Figaro en 2007 aussi. Hein. Alors curieusement, en octobre 2007, le Figaro sort une revue de presse sur les sabotages au niveau du cuivre et ne fait pas un lien le 21. Quoi. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Le jour même, il y avait les questions d'actualité au Parlement. Il y a eu un déchaînement des hommes qui, normalement, gèrent la démocratie. On les a entendus hurler cheminots au boulot. Alors imaginez quel type d'analyse on peut faire sur des gens qui, normalement, doivent préserver donc la Constitution et notamment le droit de grève, quoi. À un moment donné, il faut rester respectueux. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un déchaînement qui pourrait amener des gens à passer à l'acte.
Voilà, nous là arrivé. On va avancer un petit peu par là. On y va. Tu vois, facile d'accès. Aucun souci. Personne autour. Attention où tu marches, là. C'est un peu dangereux, là. Ça s'appelle du ballast, hein. C'est pas très stable. Voilà, on a un pied d'œuvre, là.
Prêt à saboter.
Ouais, prêt.
Ouais, c'est facile d'accès, hein. Alors là, c'est la fameuse armoire électrique, là.
Le fameux poste.
Toi, ça, c'est une porte et une alarme, a priori, non?
Non, c'est pas alarmé, non.
Une petite serrure de rien du tout, et hop.
Ah oui, oui, oui. Bon, après, faut savoir ce qu'on touche aussi dedans, c'est dangereux, quand même. Beaucoup de voltage, là, on va dire. Là, il faut une pince Monseigneur.
On va pas donner une recette, non plus?
Non, 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 non.
Un bout de chiffon.
Puis là, je pense que si on sait pas, on y reste.
Où est-ce qu'on est, là?
Alors là, on est en pleine campagne, complètement seul. Évidemment, c'est carrément le lieu idéal pour celui qui voudrait avoir des idées un petit peu négatives, on va dire.
Et le fameux poste électrique, on l'entend, là?
Oui, ça ronronne derrière. C'est là qu'arrive le courant électrique qui alimente les machines. Donc celui qui interviendra à ce niveau-là pourrait effectivement mettre en panne une bonne partie du réseau, enfin d'alimentation électrique, hein.
Là, on est capable de bloquer la ligne qui passe à côté. Là, on est à 10 mètres de la voie où passent les trains. C'est un lieu qui est complètement accessible au public. Je veux dire, rien ne nous a empêché d'arriver jusque là où on est.
Non, il n'y a strictement aucun contrôle, aucune barrière, comme beaucoup de lieux le long de la voie. Les zones grillagées sont limitées aux zones urbaines principalement. Mais en rase campagne, on peut accéder en franchissant un talus, quoi. C'est suffisant. On peut bloquer 4 voies d'un coup sur 50 km. Mais évidemment que la possibilité de faire est ouverte et aux cheminots et aux simples quidam, quoi. N'importe qui peut s'approcher de ces installations.
Donc là, on est près de ce transformateur. Qu'est-ce qu'on risque là si n'importe qui de la direction de la SNCF sait qu'on est là?
Qu'est-ce qu'on risque? Vous êtes dans une entreprise privée, hein, donc si vous n'avez pas d'autorisation, vous, c'est pas bien. Et moi, je vous parle là, donc c'est pas bien. Voilà, donc on risque, je sais pas...
Vous n'avez pas le droit de donner une interview sans l'autorisation de la direction?
Dans l'enceinte de l'entreprise, oui. En plus, c'est sur la SNCF, j'ai pas le droit de donner certains types d'informations. On a une clause de confidentialité au niveau de l'entreprise. En tout cas, je ne dévoilerai rien qui puisse mettre en danger l'outil qu'on entretient au quotidien les uns les autres. Hein.
Puis là, bon, dans un endroit névralgique, mais en même temps, on est à 2 mètres de l'illégalité. On n'a pas franchi la barrière complètement.
Non, pas bien. Complètement. Mais par contre, il y en a plein qui le franchissent partout, quotidiennement. Hein, pour dire qu'il y a vraiment tout le monde rentre dans l'enceinte du chemin de fer sans souci. Hein. Il pourrait y avoir d'ailleurs des... Je sais pas si vous vous rappelez ce fameux accident, c'était sur Nantes, je crois, au Saint-Nazaire, où des mômes jouaient sur des wagons, ils se sont fait électrocuter, quoi. Voilà, c'est un terrain de jeu maintenant, la SNCF.
Même étonnant qu'il y ait
plus d'accident. Je parle pas des tailles et tout ça, hein. Il y en a un petit peu déjà sur les installations là, mais on a tous nos locaux sur un moment taillé et tout ça, donc ça veut dire que tout le monde rentre là-dedans.
Ça rassure un peu sur l'idéologie des Français, puisque finalement, vu l'accessibilité, on pourrait craindre beaucoup plus d'accidents.
Oui,
bon,
aussi.
Finalement, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça, heureusement, oui. D'accidents et d'incidents, parce que des actes de sabotage, on y viendra peut-être, hein, parce que vu comme les choses tournent, il y en a quand toujours un petit peu de haine à faire ressortir, à passer sur quelque chose. Donc les installations, peut-être qu'un jour, seront peut-être plus sabotées, hein, je ne sais pas. Hein.
Didier Lereste, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots.
Alors on va revenir sur ces événements du 21 novembre. Donc ce jour-là, des sabotages apparemment concertés, présentés comme tels, dénoncés par le gouvernement, la direction de la SNCF. Et la CGT demande une enquête sur ces faits, alors vous dites des faits inqualifiables commis par des lâches. Ça c'est vos termes de l'époque. Alors, quelles informations on a eues depuis sur les auteurs de ces sabotages?
Il y a toujours des... multiples enquêtes diligentées, mais le gros problème, c'est qu'on a très peu souvent connaissance des résultats. Sauf que nous, on souhaite quand même, in fine, connaître les véritables auteurs de ce genre d'exaction qui est de nature à discréditer les mouvements sociaux et singulièrement les syndicats qui les animent. Moi, dans l'exercice de mes responsabilités, même si les choses peuvent être très dures, très radicales, je ne suis pas, pour moi, dans une forme de désobéissance au sens où on l'entend de façon habituelle. Je pense être légitime. Alors bien sûr, moi j'ai connu des envahissements de salles de réunion et tout ça. C'était très dur, ça bousculait, parce que c'était le contexte de l'époque. D'ailleurs, de ce point de vue, je pense que des fois, peut-être, on est passé d'une extrémité à l'autre. Moi, j'ai connu des rapports très directs. Ça pouvait être même des fois un peu physique avec des dirigeants de l'entreprise. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'entreprise, c'est eux qui font de la politique, au sens plein du terme, qui viennent sur le terrain, y compris faire de la provocation. Je vois par exemple aujourd'hui des dirigeants qui viennent prendre la parole dans les assemblées générales de grévistes, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes grévistes. Des responsables régionaux de la SNCF qui viennent jouer les provocateurs sur les piquets de grève. Ça, c'était pas connu, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi à l'aune de ce genre de situation qu'il faut apprécier les choses. Oui, effectivement, moi, j'ai connu des situations qui étaient sur le plan de l'engagement très dur.
Le secrétaire général de la CFDT a été hué lors de son entrée dans le cortège.
Chérec, trahison.
Ces manifestants reprochent à François Chérec ses propos de vendredi dernier. Il a appelé les grévistes à cesser leur mouvement contre la fin des régimes spéciaux de retraite. François Chérec a dû partir protégé par son escorte.
Bruno Duchemin, secrétaire général de la Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, l'AFJAC.
Bruno Duchemin, pendant les grèves de novembre dernier, vous étiez non-gréviste à l'AFJAC. Est-ce qu'on peut être non-gréviste quand la CGT dit qu'il faut faire grève ?
Alors d'abord, une petite précision, nous étions grévistes à la première grève, ensuite nous avons engagé la négociation, donc nous n'étions plus grévistes lors de la deuxième grève, et c'est vrai qu'il est très difficile de ne pas faire grève à la SNCF lorsque le mot d'ordre est lancé par l'ensemble des organisations syndicales, et c'est extrêmement difficile à vivre sur le terrain pour ceux qui souhaitent engager plutôt la négociation que le rapport de force.
Vous étiez un peu isolé à l'AFJAC pendant la fin de ces grèves.
Oui, nous étions isolés sur la grève, même si nous avons constaté que d'autres organisations syndicales auraient peut-être souhaité négocier. Donc c'était assez difficile.
Alors vous étiez isolé, c'est peu de le dire. On vous a même traité de lâche, enfin ça a été dur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rentrer en négociation au moment où les autres n'avaient pas du tout envie de le faire ?
Parce qu'il nous semblait que nous pouvions obtenir davantage par la négociation que par la grève, et nous avons préféré désobéir à ce mot d'ordre de grève parce que ça nous semblait beaucoup plus efficace pour l'ensemble des cheminots sur le dossier des retraites. Tout ce qui est négocié aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avions déjà négocié lors des séances de négociation avec la direction et le gouvernement les 6 et 9 novembre. Et lorsqu'il y a eu appel à la grève le 13 novembre, il n'y avait plus de raison de partir en grève. Au contraire, il fallait continuer la négociation, parce que je crois que le véritable combat, il est là. Il est plus dans la négociation que dans le radicalisme. Le radicalisme, finalement, c'est quelque chose de très facile. Et donc, nous avons choisi de ne pas faire grève. Aujourd'hui, on considère que celui qui fait grève, qui s'oppose, qui refuse les évolutions, c'est quelqu'un qui résiste. Donc c'est quelqu'un qui est auréolé d'une forme de résistance, comme on a pu connaître à une certaine époque. Donc c'est une résistance plutôt de confort, qui permet à certains d'utiliser des termes forts. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas grève, on va le traiter de collabo, par exemple. Celui qui fait grève, on dit que lui résiste. Donc il y a comme ça, dans la culture des cheminots, une référence à l'histoire et à la résistance que certains se sont appropriés pour obliger d'autres, ou du moins les culpabiliser, s'ils ne suivent pas les mots d'ordre de grève de soi-disant résistance, disons quand même assez confortable aujourd'hui, puisqu'on ne risque pas grand-chose, et qui est de faire grève.
Les gens disent Chérec trahison, vous comprenez ça comment, vous ?
Moi, je prends ça comme un manque flagrant de démocratie.
Comment vous comprenez la résistance d'une partie de la base des cheminots, que ce soit CGT, Sud, FO ?
Je les comprends, on leur a dit qu'ils ne changeraient pas. On leur a dit que les 37 ans et demi, c'était inéluctable, qu'ils resteraient toute leur vie. Et là, ils sont en train de se rendre compte qu'y compris parfois leurs responsables syndicaux, ils savent bien qu'il faut changer. Et c'est pas facile à expliquer, il faut du temps.
Thank you.
Ils sont nombreux parmi les syndicats, mais aussi à la direction de la SNCF ou au gouvernement, ceux qui, lors de conflits impliquant des cheminots, font des renvois plus ou moins hasardeux à la période de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, on a pu entendre au lendemain des sabotages le ministre des Transports, Dominique Bussereau, déclarer, je cite, « Y compris aux heures les plus sombres de notre histoire, les cheminots ont toujours respecté leur outil de travail. Ce que nous prenons la liberté de comprendre ainsi, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, les cheminots n'ont pas saboté de convois de juifs par respect de leur outil de travail. » Voilà qui mérite évidemment quelques éclaircissements. Nous sommes allés voir Georges Ribeil, historien. Il est chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées. C'est un très grand spécialiste de la SNCF. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre pourquoi la Seconde Guerre mondiale est si présente dans l'imaginaire cheminot.
On a accusé un petit peu les cheminots par rapport à ces trains de déportés politiques ou raciaux, de ne pas avoir fait grand-chose pour les empêcher d'arriver jusqu'en Allemagne. On peut dire à peu près certainement que les mécaniciens et chauffeurs attachés à leur locomotive dont ils étaient les titulaires dans leur dépôt n'étaient pas tentés à tirer pour saboter leur propre machine, leur machine. Je n'ai jamais entendu de cheminot résistant dire « j'ai saboté ma locomotive ». Saboter la voie, faire dérailler ces trains de déportés ne servait pas à grand-chose. Ça, c'est à peu près sûr. C'est-à-dire qu'au fond, un aiguilleur s'arrange pour bloquer un train avant l'arrivée en gare de Reims par un rail pétardé. Qu'est-ce que cela signifie ? Ben, que les Allemands, aussitôt, vont réquisitionner les agents cheminots quand on y la voie qui sont autour pour dire « mes petits gars, vous allez réparer la voie ». Donc c'est une heure ou deux de plus d'attente dans les wagons, et en l'occurrence dans la fournaise. Autrement dit, ce n'était pas un bon scénario pour sauver des individus. Beaucoup de cheminots, on appelle des visiteurs, au départ du train qui vérifiaient que les choses étaient en bon état, au contraire, fermaient les yeux sur un plancher de wagon en mauvais état, ou voir cacher des outils, genre six couteaux, dans ces wagons, ce qui est une forme de sabotage par rapport à la réglementation qui leur obligeait plutôt à dire que ce wagon était en parfait état. Voilà, donc des configurations de transgression, bien sûr, par rapport à l'argumentation cheminote.
Juan Aliard.
Le sabotage dans l'histoire des cheminots, c'est une résistance contre l'occupant, c'est une résistance pour, à un moment donné, on détruit l'outil de travail, mais ce n'est pas dans une démarche négative, c'est pour s'opposer à une oppression, quoi.
C'est un devoir de désobéissance, on appelle ça généralement.
Dans cette période-là, oui, ça a été utilisé comme un devoir de résistance qui a entraîné d'énormes représailles puisque beaucoup de cheminots ont été fusillés ou déportés dans cette période-là, quoi. On avait des conséquences énormes vis-à-vis des actes qui se mettaient en place dans les secteurs de la SNCF. On était systématiquement réprimés par la suite, sinon fusillés sur le champ.
Georges Ribeil.
À propos de cette histoire donc de sabotage de la part des cheminots, je crois qu'il faut prendre encore plus de recul et évoquer les tout débuts des grandes grèves cheminotes, 1998, 1910, 1920. Ce que l'on peut dire, c'est que à cette époque, avant 14, d'une CGT révolutionnaire, poussant à la grève générale, à la révolution en particulier sociale, les cheminots ont été très vite un petit peu à la pointe du combat parce que disposant d'un outil fondamental, le chemin de fer. La paralysie du chemin de fer, c'était un petit peu la paralysie de l'économie. Donc ils étaient conscients que la grève, l'arrêt des trains, pèserait lourd dans la confrontation avec le patronat de l'époque des compagnies privées. Relisant quelques notes à l'occasion de notre visite, à l'époque, les policiers pratiquent des méthodes très sournoises, très subtiles, infiltration au sein des syndicats, pour les pousser justement à la grève, et après détecter les meneurs, les leaders. Alors la grève de 1998 que j'ai bien étudiée, c'est une grève qui a avorté superbement, parce qu'au fond, les militants ne s'étaient pas rendus compte qu'il y avait autour de la table qui a décidé la grève un policier infiltré, bien sûr qui était un cheminot, mais en fait qui travaillait pour la police, qui par sa même voix, sa voix dans les votes, pousse à la grève, mais aussitôt avertit la police de ces dispositifs prévus par la syndicat national des cheminots. Et là, ça en dit long sur la capacité active des instruments policiers à l'époque du gouvernement, de participer à ces affrontements, à l'excitant, et en provoquant, je dirais, l'affrontement.
Est-ce que vous êtes en train de faire un parallèle avec les grèves de novembre 2007 ?
Je crois qu'effectivement, oui, ce serait hardi pour un historien qui n'a pas accès à des archives, etc., de s'avancer sur ce terrain-là. Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire d'accusation par les syndicalistes accusés d'avoir saboté la voie, 1910-1920, il y a toujours ce leitmotiv, ce n'est pas nous qui avons saboté, c'est plutôt le gouvernement qui a excité les cheminots à la grève, qui a voulu mobiliser l'opinion contre ces grèves-là, en effectuant lui-même des sabotages. Alors, en particulier, les cheminots ont toujours évoqué cet argument un peu frappant et intéressant, en disant, la preuve que c'est pas nous qui avons saboté la voie, c'est que c'était un boulot très mal fait. Nous, cheminots, nous aurions saboté beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Donc, c'est intéressant de voir cette espèce d'expertise syndicaliste qui est mobilisée contre, je dirais, les manipulations policières.
Contre la dictature des syndicats !
Manifestation anti-grève, 18 novembre 2007.
Alors, obéissance, désobéissance, il y a aussi la question de l'opinion publique et des injonctions à continuer le travail, à assurer un service minimum. Donc, les grèves sont souvent impopulaires, sans parler des sabotages. Est-ce que ça a toujours été le cas, cette espèce de défiance de la population par rapport aux grévistes perpétuels de la SNCF?
Bon, je crois qu'effectivement, on peut dire que la grève cheminote a marqué les esprits populaires. Hein, c'est des rêves toujours durs, qui paralysent, qui ont des effets tangibles, immédiats et très importants, que ce soit pour les voyageurs ordinaires ou pour l'économie elle-même. Donc cette grève cheminote, elle est toujours redoutée par les politiques, qui ont toujours mis en avant ce thème donc des otages pris par les grévistes. Le service minimum, dont on a beaucoup débattu depuis plusieurs décennies, qui est un leitmotiv récurrent des politiques, on peut admettre, c'est vrai que, comme le disent les syndicats et ce cheminot, le service minimum, déjà, on n'a pas les moyens sur un service minimum, donc ça n'a pas beaucoup de réalisme d'invoquer cela. Sur le thème du service minimum, je trouve que là aussi, on peut évoquer que c'est une affaire qui remonte à très longtemps. La réquisition, par exemple. Alors, c'est le thème de la réquisition qui est une arme politique forte des gouvernements en disant, mais cheminots, je vais vous requérir, vous mobiliser en tant que militaire, parce que des lois permettaient cela. Alors ça a des grèves de 53 contre la transformation du régime des retraites.
Déjà,
oui, absolument. C'est une grève où, malgré les ordres de réquisition envoyés nominativement aux agents, le rapport de force est tel qu'en fait, les cheminots ont désobéi à la réquisition, ont fait grève, et le gouvernement est conscient qu'il ne peut pas sanctionner tous ces milliers de grévistes parce qu'ils ont désobéi à la réquisition. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le service minimum, c'est-à-dire à coup d'une obligation contractuelle, d'engagement. Bon, le seul problème, c'est une fois de plus, on peut s'engager, mais s'il y a des sanctions prévues qui ne sont pas appliquées, comme c'était le cas dans la réquisition, on pourrait dire, ben, vous êtes menacé de prison comme déserteur. Si vous n'avez pas la réquisition, bon, tout ça, ça fait partie un peu du langage polémique, en réalité, derrière le rapport de force sociale, l'emporte, et on sait très bien qu'un gouvernement aurait du mal à emprisonner des gens parce qu'ils se sont enhardis dans le rapport de force, quitte à dépasser, à violer un règlement ou une obligation.
Paris-Gare de Lyon, dernier trajet de la journée pour conducteur et syndicaliste, un statut qui lui permet d'être filmé à visage découvert, plutôt rare en ce moment.
Ok, on s'arrête à Villeneuve-Triage suite à un signal d'alarme.
30 ans, 5 ans de SNCF, 2 300 € par mois pour 6 heures de travail quotidienne, dont 4 de conduite.
Je me sens utile, quoi. J'amène les gens voyager, j'amène les gens au boulot. Moi, je trouve ça... J'aime bien, franchement.
Gare de Melun, terminus pour le train et son conducteur.
Conducteur transilien, je conduis des trains depuis 2000 à la SNCF.
Alors, vous êtes un peu connu parce que pendant les grèves de novembre dernier, vous avez accordé une interview à France 2, en l'occurrence, pour le journal télévisé. Et mal vous en a pris puisque vous avez été assez rapidement sanctionné, de manière assez lourde, je crois, par la direction de la SNCF. Donc, quand on est conducteur de train, on n'a pas le droit d'accueillir un journaliste dans sa cabine.
Eh bien, disons que si on le fait, on risque d'avoir des sanctions, c'est ce qui m'est arrivé. Parce que je suis passé en conseil de discipline suite à ça le 6 février, où j'ai eu des jours de mise à pied. Ils voulaient d'ailleurs me donner un peu plus que des jours de mise à pied, parce qu'ils voulaient même mettre le dernier avertissement avant licenciement, ce qui est une faute assez importante quand même à la SNCF. Et c'est vrai que juste avant la grève sur les régimes spéciaux, lorsqu'une équipe de France 2 m'a contacté, bon, c'est pas moi qui les avais contactés, ils m'avaient contacté pour faire un reportage sur la pénibilité du métier de conducteur de train. Il nous a semblé que c'était quand même beaucoup plus pertinent de faire ça en cabine sur le terrain, en m'accompagnant, justement, en montrant les découchés, en montrant les prises de service très tôt, plutôt que dans un local syndical. Donc, suite à ça, bah, effectivement, ils m'ont accompagné sur le terrain. Il y a eu un reportage et ça n'a pas dû plaire au service de communication de la SNCF. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le reportage, justement, j'en ai beaucoup discuté avec mon directeur d'établissement. Et une des choses qui le choquait le plus dans ce reportage-là, c'est qu'à un moment donné, ils expliquent que voilà, je fais ma journée de travail, je vais dormir dans un foyer SNCF. Et le lendemain matin, je me lève à 4h du matin pour avoir une prise de service à 4h30. Et justement, dans le reportage, ils expliquent que je n'avais dormi que 5h. Et donc, du coup, je conduisais des usagers avec toutes les normes de sécurité que ça exige, avec 5h uniquement de sommeil dans la gueule. Et c'est ça qui l'avait choqué le plus. Il me disait, mais vous rendez compte, vous avez expliqué aux gens que vous les conduisez alors que vous avez dormi que 5 heures. Moi, je lui dis, mais oui, mais le problème, c'est que ça, c'est la réalité. C'est un truc complètement fou, un scoop. En 2008, il y a encore des métiers pénibles en France et qui fait que travailler jusqu'à 60 ans lorsque vous conduisez des trains et vous levez à 3 ou 4 heures du matin, c'est pas très raisonnable.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez un risque en répondant aux questions de France Culture ?
Non, je pense pas que je prends un risque, mais en tout cas j'espère pas. Mais après, de toute façon, toute l'histoire du syndicalisme a prouvé que, heureusement que dans le mouvement ouvrier, il y a des gens qui ont flirté, voire dépassé la ligne verte de la légalité, parce qu'autrement, si on était toujours resté dans le stricto sensus cadre de la légalité, je suis pas persuadé qu'on aurait eu tous les acquis sociaux qu'on a eu aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'en 1936, l'année où on a obtenu les congés payés, il y avait des occupations d'usines, et en 36 comme aujourd'hui, les occupations d'usines, c'est quelque chose de totalement interdit. Pourtant, ça a été le moyen qui a permis cette chose complètement folle, c'est-à-dire d'être payé sans travailler, c'est qui est la définition du congé payé.
Ce qu'on peut dire effectivement là,
Georges Ribeil,
archi connu et bien établi, c'est que cette inflation de règlements par les compagnies sert avant tout, en cas de pépin, à pointer du doigt le lampiste qui n'a pas respecté le règlement. Autrement dit, si le train est à l'heure, si le train a éviter la catastrophe, si le mécanicien dans sa locomotive vapeur, habilement, par un coup de frein ou un coup d'accélérateur, a échappé à la catastrophe, il aura fait un geste hardi et il sera félicité. Mais si à l'inverse, ce geste hardi tourne mal, on lui dira, mais attendez, vous n'aviez pas de chaussures réglementaires, vous n'avez pas observé le signal à côté, vous n'avez pas mobilisé tel article du règlement, à ce moment-là, il sera descendu en flamme en disant « vous n'avez pas respecté le règlement, donc c'est vous qui êtes à 100% fautif et coupable ». Donc cette doctrine du règlement parapluie a été très longtemps appliquée par les compagnies de chemin de fer. Aujourd'hui, on a quand même du mal à imaginer que ça fonctionne toujours comme cela, sur ce registre-là. Les règlements ont été quand même simplifiés, allégés, et ce fonctionnement très hiérarchique, très où la hiérarchie se protège, est quand même moins effectif qu'il ne l'était autrefois.
C'est parti, hein. Allez, on va être en route. À part qu'on va se mouiller les pieds.
Donc une gare de triage, on appelle ça une gare comment ?
Ah, ça c'est le remisage des rames. C'est là où les rames sont entretenues, nettoyées, et puis... Ouais, on vient chercher là, on les ramène là le soir et elles passent la nuit ici, elles sont entretenues, bichonnées, choyées.
Donc un endroit quelque part aux alentours de Paris. Donc là on est en train de désobéir là.
Ouais voilà, grosso modo c'est ça. J'ai le droit d'avoir personne avec moi qui me suit.
Et moi j'ai pas le droit de monter dans ce train. Là on est pas au autorisé à faire cette interview dans cette cabine, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple du même genre?
Comme ça, a priori, rien de spécial, mais tous les événements qui se passent à l'intérieur de l'entreprise sont obligés de passer par un communiqué de presse, et nous, directement, les agents, on ne peut pas communiquer directement avec la presse.
Donc là, vous risquez quoi exactement?
Oh ben je risque au même titre que mon collègue de Paris Sud-Est des mesures disciplinaires, parce qu'en aucun cas j'ai le droit d'avoir quelqu'un avec moi en cabine sans autorisation. C'est bruyant. C'est nos oreilles qui en pâtissent. Ce matin, vous vous êtes levé à 14h du matin ou à 3h pour venir me voir et tout ça. Donc, vous pouvez très bien comprendre que quand vous avez des cadences de travail qui se continuent comme ça plusieurs semaines et tout ça, on a droit ou on estime avoir droit à certaines compensations qui sont de l'ordre de la retraite et tout ça.
Effectivement, à l'échelle d'une vie, ça peut laisser des marques. Hein, ça peut. Ouais.
Mais voilà, les gens, petit à petit, la manipulation consiste à leur faire prendre conscience que la manipulation de l'entreprise et des gouvernements qui sont succédés, que c'était inéluctable, que les techniques avaient évolué, on ne travaillait pas pareil, donc ces retraites-là qui se disaient méritées parce que c'était plus ou moins la contrepartie d'un service en horaire décalé, d'un service continu dimanche et fête et tout ça. Donc petit à petit, on leur a mis l'idée que c'était pas forcément quelque chose qu'on avait la possibilité de garder. Et à partir de ce moment-là, la radicalisation, si vous voulez, sans l'accepter, on peut comprendre qu'il y a des gens qui dévissent et qui tournent vers la radicalité et puis voilà.
Qui sont pour la suspension du mouvement? Lève la main. Oh putain, ça va être facile.
La réponse est sans équivoque. Ici à Nantes, les cheminots ont voté pour la reprise du travail. Et le résultat est le même partout en France. 42 des 45 assemblées générales qui se tenaient ce matin ont décidé de suspendre la grève. Une décision qui crée des conflits parfois entre cheminots.
Moi je suis parti en grève là-dessus, je suis parti en grève sur les 37 annuités 5. Maintenant les lots de consolation, j'en veux pas. J'en veux pas.
Tous ensemble, hey hey, tous ensemble, tous ensemble, hey hey.
On est dans votre bureau là à Montreuil, Didier Lereste. Je vois accroché au mur un portrait du Che Guevara.
Oui.
Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, le Che?
Ah ben moi, c'est toute l'histoire de Cuba, la rébellion contre l'impérialisme américain, tout ça. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'idolâtrer pour idolâtrer, parce que moi, ce n'est pas le genre de la maison, mais moi, je m'identifie beaucoup à ces luttes d'émancipation, de refus de l'impérialisme tel qu'il s'est développé. Et donc voilà, et je pense que l'image et l'action, même si elle peut être critiquable sous certains aspects, Che Guevara est bien encore aujourd'hui d'actualité. Hein.
Bonjour, ami cheminot. Viendrais-tu aider le gouvernement à convaincre tes collègues d'abandonner leur régime de retraite?
Ouais, mais ça va être du rail. Hein.
Dans l'action syndicale, à quel moment est-ce qu'on s'autorise l'emploi du radicalisme?
Bah écoutez, quand en face, que ce soit au plan politique ou au plan patronal, les choses se radicalisent, je crois que oui, effectivement, eh bien, il faut utiliser, entre guillemets, les mêmes armes que nos adversaires. Et, par exemple, lorsqu'on décide avec les cheminots dans l'action d'aller bloquer des circulations ferroviaires, là, on n'y va pas comme ça la fleur au fusil, parce que bon, on est aussi des gens expérimentés, des professionnels du rail, donc on sait les dispositions qu'il y a à prendre en amont pour permettre effectivement une intervention sur les voies pour ce qui concerne de niveau, dans de bonnes conditions de sécurité. Mais bon, donc je pense que là, il y a effectivement un état d'esprit aujourd'hui, côté direction, où il y a une espèce de raidissement dans les relations sociales. C'est pour ça qu'il y a une certaine détérioration. En plus que l'entreprise, comme le gouvernement, n'accepte pas que les organisations syndicales se mêlent, je dirais, de la vie économique, de la stratégie. Et il faudrait que simplement que les organisations syndicales soient cantonnées à vendre la facture sociale, à négocier les conséquences sociales des stratégies industrielles. Donc voilà, donc je pense que là, il y a aussi des formes de radicalisme qui s'opèrent.
Jusqu'au bout, je resterai déterminé. La réforme se fera, que nul n'en doute. Mais jusqu'au bout, je resterai ouvert parce que c'est mon devoir. Mais je dis qu'il faut savoir terminer une grève. Ceux qui veulent travailler, qui sont de loin les plus nombreux, doivent pouvoir le faire librement. Une petite minorité ne saurait imposer sa loi à la majorité.
Donc on a bien compris que Sudrail a tout fait pour nier les accusations de sabotage. Alors quand vous vous laissez aller, y compris dans des tendances paranoïaques, Christian Maillot, on s'interdit rien là,
les sabotages, puisque c'est pas vous, qui c'est ?
Donc sans faire de parano, on peut considérer que ce qui a été expliqué était vrai. Le fait de faire tout ça dans 4 ou 5 points du territoire à la même heure et quand même à un moment décisif au moment de la grève, bah, on peut penser que ça intéressait plutôt, en tout cas, on va dire, le gouvernement plutôt que des organisations syndicales. Quoi. Voilà. Moi, après, bah, j'attends, je pense qu'on aura des nouvelles, puisqu'il y avait des gens qui le 21 novembre matin avaient déjà trouvé les coupables. Donc je pense qu'on devrait un jour en reparler et que ça devrait faire du bruit. Quoi.
Alors, est-ce que vous allez rencontrer les syndicats demain, comme ils vous le demandent, pour préciser le cadre de la négociation ?
La première des choses, c'est que mardi soir,
Xavier Bertrand,
il m'a été demandé par les dirigeants des organisations syndicales, pour sortir du conflit, j'insiste bien pour sortir du conflit, d'accepter le principe de réunion tripartite dans les entreprises. C'est fait. Nous l'avons accepté depuis hier soir. Donc maintenant, je le dis, je demande aux organisations syndicales dans les entreprises d'appeler à la reprise du travail.
De la part du ministre du Travail, M. Xavier Bertrand.
Ah bon ?
Ah, alors, vous travaillez à la SNCF ?
Je travaillais.
Ah d'accord.
Vous êtes retraité ?
Eh oui.
Bah, vous pouvez rendre le croissant, s'il vous plaît ?
Ah non, non, non.
Ah non, vous le rendez, non, non.
France 2, ah, bon. On n'a pas tout dit, novembre 2007.
Il y a des limites, quoi.
J'ai commencé à 17 ans, moi, Agnette. J'ai hors de question, je parte à au-delà de 50 ans.
Tenez, prenez un croissant,
c'est leur problème.
Xavier Bertrand qui vous l'offre.
Vous en foutez pas une rame, faut être honnête quand même.
Bon, bah moi je trouve que c'est vrai qu'on a pas mal d'avantages, puis on fout pas grand chose, mais bon, c'est tout.
Ah, il a l'air de dire le monsieur que les cheminots bossent pas, c'est ça que vous dites, non ?
Bah, c'est pareil qu'on leur fout pas la rame.
Là, c'est ce ça. Que vous venez de dire, voilà, c'est que les cheminots ne bossent pas. Mais on a suffisamment payé pour partir à 55 ans, vous croyez pas ?
Ce sont les autres qui payent pour vous, soyez honnête.
Les autres payent pour
vous. Mais bien sûr que ce sont les autres qui payent pour vous.
Ça, c'est du sarkozisme à fond.
Mais ça,
c'est très bien, continuer comme ça.
Mais moi, vous voyez, j'ai encore 2 ans à faire. Mais j'espère que je vais partir à 5 comme ça.
Non, mais
j'en ai rien à foutre.
Non, monsieur,
ça fait 35 ans que je cotise. Donc,
et
rigole.
Et alors, monsieur, et les autres, enfin.
Vous, vous dites que je suis un privilégié.
Oui, vous,
non,
êtes
un... vous rigolez. Je suis un privilégié parce que je suis rentré au chemin de fer en choisissant moins de salaire, une cotisation plus forte et partir à 55 ans. Je suis privilégié.
Le fait de. D'être en grève, et donc de. On parle toujours dans les journaux de prise d'otage, les Français sont pris en otage, etc., etc. Donc il y a la pression populaire. Comment est-ce qu'on désobéit longtemps à l'opinion publique ?
Oui, effectivement. Alors bon, par définition, une grève dans les transports est.
Didier,
est
le reste.
Impopulaire, parce que bon. Elle est d'ailleurs impopulaire, y compris vis-à-vis des usagers qui sont. Des militants syndicaux, voire des syndiqués CGT. Hein, parce que, qu'on soit à la CGT ou pas, lorsqu'on attend son métro qui vient pas ou son train qui vient pas non plus, on n'est pas content. Et c'est d'ailleurs pour ça que les sondages ont toujours démontré que, parce que la réponse était le service minimum, que 80% étaient pour le service minimum parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir leur train et leur métro tout le temps aux mêmes heures pendant les journées de grève. Bon. Alors après, on a aussi un intérêt, nous, en tant qu'organisation syndicale, à travailler, à avoir un rapport permanent et de qualité avec l'opinion publique, singulièrement avec les usagers pour ce qui nous concerne et leur association. Mais bon, après, il y a la question du rapport employé-employeur et du rapport de force qui doit s'installer, parce que c'est comme ça, pour débloquer la situation. Alors bien sûr, c'est pas très, très confortable pour les désagréments que ça génère, sauf que nous sommes dans un contexte. Et je le dis, si demain, par exemple, alors déjà que la loi du 21 août 2007 sur le service minimum nous contraint encore un peu plus dans l'exercice du droit de grève, mais si d'aventure des entreprises comme la nôtre, on n'a plus la possibilité effectivement d'utiliser la grève comme moyen d'expression démocratique, ça sera préjudiciable pour nous, mais aussi pour l'ensemble du mouvement social, je le pense. Et donc, avant d'être, par exemple, usager d'un service public, et notamment des transports, on est aussi citoyen, on est salarié. Et donc, je pense qu'après débat et avec un certain recul, on doit aussi, à un moment donné, comprendre qu'il y a souvent des convergences. D'ailleurs, lorsque nous faisons grève pour revendiquer plus d'emplois, pour qu'il y ait plus de marchandises qui soient transportées sur les rails, au lieu que ce soit par une kyrielle de camions sur les routes. Lorsque nous luttons et nous agissons pour maintenir une gare ouverte, je pense qu'il y a une corrélation directe avec ce que demandent, ce que revendiquent les usagers au quotidien en termes d'amélioration de qualité de service, et singulièrement, par exemple, dans les zones rurales. Moi, je ne passe pas une semaine sans être sollicité par des associations, par des élus politiques, parce que la SNCF, de façon unilatérale, a décidé de supprimer tel train de nuit, tel dessert, de fermer telle gare. D'ailleurs, y compris des fois des installations qui ont été financées par les collectivités publiques, et on les ferme sans leur demander leur avis. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois qu'en France, il y a un rapport entre le citoyen usager et la SNCF qu'il n'y a pas avec d'autres services publics. Et c'est pour ça qu'on entend souvent « je vais prendre mon train, je vais à ma gare ». Et on ne parle pas comme ça d'EDF ou de La Poste. Et parce qu'il y a vraiment un rapport direct. Et c'est ça aussi le sens de l'intérêt général et du service public.
Ma femme, tous les matins, elle attend un train sur le quai de la gare. Mais elle soutient mon mouvement. On est prêt, on va dire, comme on dit dans le temps, à se serrer la ceinture et à manger des patates s'il le faut. Mais on va tenir jusqu'au bout. Ma femme, ça ne la gêne pas du tout. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter. Il faut qu'on reste dans notre lignée. C'est à la vie, à la mort, on va dire. Je crois qu'aujourd'hui, on est aussi dur qu'en 95, contrairement à ce qu'on entend à la télé. On est aussi dur et prêt à tout. Donc, on va continuer. Voilà. À partir du moment où on a commencé à faire une grève et que les jours passent, on n'a plus du tout envie d'arrêter. On est dans l'emballement du mouvement et on ne peut plus s'arrêter.
L'acte décisif qui a fait que 98% des cheminots en grève ont décidé de façon démocratique le 21 et le 22 novembre dernier de suspendre le mouvement, c'était l'ouverture des négociations tripartites. Parce que les cheminots, dans leur diversité, mais aussi portés par les fédérations syndicales, demandaient et revendiquaient depuis longtemps l'ouverture de négociations tripartite sur l'avenir des régimes spéciaux de retraite. Et les deux grandes questions qui étaient posées dans la corporation des cheminots, c'était de dire dans quelles conditions nous allons accéder à la retraite et avec quel niveau de pension. Et pour ça, il fallait engager des négociations. Et donc, c'est pour ça que nous y sommes encore aujourd'hui.
Manifestation anti-grève, 18 novembre 2007.
Des gens qui désobéissent jamais, je veux dire, qui sont angoissés à la moindre idée d'aller contre la règle. Vous, ça vous est venu quand, cette envie d'aller contre les règles? Vous êtes vous désobéissez, Christian Maillot, avec un peu de délectation, j'ai l'impression.
Ouais, enfin, c'est pas une envie, je pense que c'est un... Enfin, j'allais dire, je considère que c'est un fait naturel, inhérent à l'être humain, et que... On ne se situe pas a priori simplement par rapport à des règles qui sont définies. La question est de savoir effectivement, y compris non pas la légalité, mais la légitimité de ces règles. Et bon voilà, moi par exemple, relativement jeune, je me suis retrouvé dans une situation effectivement de désobéissance au sens premier du terme, puisque j'étais insoumis au service militaire, puisque à mon époque, entre guillemets, le service militaire était donc encore obligatoire. Et que donc j'ai fait partie des combats antimilitaristes à la fin des années 70, qui passaient notamment, pas seulement, mais qui passaient notamment par le refus du service militaire, et que donc j'ai été effectivement en situation d'insoumission, avec le risque à ce moment-là d'ailleurs de 2 ans de prison, qui de fait était d'ailleurs même renouvelable de 2 ans en 2 ans. Mais donc ça c'était, j'avais voilà, 17, 18 ans. Quoi.
Pour éviter que la tension ne monte, le vote se fait à bulletin secret. Résultat, reprise du travail. Mais les syndicats préviennent déjà, si les négociations avec le gouvernement ne leur conviennent pas, ils reprendront le mouvement.
Suivant le vote, s'il y a reconduction, bah demain on sera là, et moi-même dès 4h15. Maintenant, s'il y a suspension, il ne faut pas que le gouvernement croit qu'il a gagné, parce que suspension, ça ne veut pas dire arrêt. Vous voyez ici derrière moi la détermination quand même des camarades présents depuis 8 jours. S'il faut être en grève à Noël... si les trains doivent être en arrêt pour les vacanciers, malheureusement, on dira encore des usagers sont pris en otage, mais ça ne sera pas nous les fautifs.
Le nombre de grévistes est en nette baisse, aux alentours de 14,5% selon la SNCF.
Sabotage. Une émission proposée par Antoine Saxe. Producteur-coordonnateur Alexandre Hérault.
On ferme.
Merci à Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Pascal Dupont. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Nathalie Triandafilides.
Nous vous recommandons de ne pas rester pour la gage sans surveillance. Obligatoire, soyez attentifs.
Thank you.
Sabotage est disponible en podcast sur le site de l'heure du documentaire durant un an. Rendez-vous demain à 17h pour évoquer les conséquences de l'ouragan Katrina il y a 10 ans.